Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire.
Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Dites-moi, est-ce que les vieilles pierres vous parlent? Est-ce qu'elles vous reconnaissent? Elles parlent à Catherine Meurice, folle d'histoire. Ah, c'est une longue aventure dans le passé à la rencontre des grands auteurs, mais aussi de soi-même. Ce sont des grands espaces et de la légèreté. C'est Delacroix, La Fontaine, Manet, Proust et tant d'autres. C'est le Pont des Arts à Paris, entre le Louvre et l'Institut. Ah, l'histoire se mêle de tout, alors direction les Deux-Sèvres à Mel.
Mel dresse dans ses murs trois églises merveilles d'art roman. Saint-Savinien. Construite à l'intérieur du castrum, l'ancienne enceinte, fut l'église paroissiale depuis la fin du XIe siècle jusqu'en 1793. Elle devait même servir de prison, de logement de fortune pour les clochards, plus tard d'entrepôt pour le service des eaux. Certes, elle a souffert, mais les pierres ont gardé par-delà les ans une fraîcheur de pâte que la façade permet d'admirer. Hélas, les beaux chapiteaux du XIIe, du carré du transept, ont été dégradés par les prisonniers. La majesté du lieu reste cependant intacte, malgré les blessures.
Les églises romanes de Mel, présentées dans Poitou-Charentes Actualité en 1966. Bonjour Catherine Meurice.
Bonjour.
Vous les connaissez ces églises?
Bien sûr, c'est toute mon enfance, ouais.
Les pierres vous parlent, les vieilles pierres?
Oui, je les aime beaucoup. Ce sont un peu comme des visages ridés qui racontent des histoires. Et les églises romanes de Mel en particulier, je les aime pour leur forme, leur couleur. Elles ressemblent à des coquillages. Enfin, je pense aux coquillages parce qu'évidemment Mel est sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Ouais. Mais oui, ces pierres sont reliées aux fossiles, à la terre. Donc tout ça est très très inspirant.
Avec l'esthétique magique de cet art roman qui ne nécessite pas obligatoirement la connaissance de l'histoire de l'église. Elle-même. Ce sont deux choses différentes, mais qui, alliées, sont beaucoup plus belles, en fait.
Oui, bien sûr, il y a une sobriété extraordinaire. Voilà, c'est ça. On n'a pas besoin de connaître l'histoire. On peut rêver devant ces formes très simples, abîmées par le temps. Quand même, il reste quand même beaucoup de chapiteaux, toujours énigmatiques. Et puis cette blondeur de la pierre. Cette blondeur de la pierre calcaire des Deux-Sèvres, hein, de cette région, et des tuiles romanes, bien sûr. Donc voilà, tout ça, j'ai une palette là sous les yeux.
Vous avez une palette, vous y mettez de la couleur, Catherine Meurice, avec aussi beaucoup d'humour dans cet art roman. Il faut le rappeler, hein, parce que associé à l'église, nous imaginons quelque chose d'un peu sérieux, mais non, c'est énormément de petits clins d'œil qui nous font sourire.
Oui, de figures grotesques, des gargouilles évidemment, et alors quand on est caricaturiste, c'est une leçon à chaque fois, on lève le nez, on regarde ces fameuses gargouilles, et on est toujours épaté, il y en a toujours une qu'on n'a pas repérée, et alors faut prendre des notes, et puis j'aime bien parce que parfois on retrouve des sosies. Voilà, on regarde je vais citer des noms, mais on regarde une gargouille, on peut saisir le sosie de Raffarin, par exemple, ou plus loin, il y a un profil qui va nous faire penser à Johnny Hallyday. Enfin bon, voilà. Il se passe plein de choses.
Non, c'est très drôle parce qu'il faut toujours des grilles de lecture pour visiter les monuments ou les musées. Alors, vous nous en offrez une nouvelle, c'est-à-dire chercher les sosies des personnages contemporains.
Ah oui, dans les musées, c'est pareil. Oui, vraiment. Oui, il y a le sosie de Michel Piccoli. Bon, ça, c'est assez. Je crois que c'est à Venise. Voyager un petit peu, mais je sais plus dans quel musée. Oui, j'adore ne pas forcément chercher, mais tomber sur des visages familiers. Mais oui, pour moi, les musées, les églises, les temples sont des lieux de rêverie. Ouais.
Dans les grands espaces, Catherine Meurice a publié chez Dargo, vous revenez sur votre enfance et ce lien, ah oh là là, mais à la trace du passé. C'est presque magique de voir ça, parce que je pense que tout le monde qui lit ce livre, c'est sublime déjà, ressent ce qu'il a lui-même ressenti. Cette approche absolument magique, on l'a dit, des vieilles pierres, avec tout ce que cela peut conduire en imagination. On l'évoquait, il y a l'histoire, pour connaître l'histoire d'une église, d'une maison, et puis il y a tout ce que l'on peut imaginer autour.
Oui, en effet. Alors les grands espaces, donc voilà, c'est une bande dessinée qui est un retour à l'enfance. Je raconte une histoire de dans la vieille maison que que mes parents ont acheté, ont retapé au début des années 90. Et j'ai passé mon enfance avec ma sœur aînée. Et on a vu un chantier, en fin de compte. Voilà, on a vu une maison, un corps de ferme abîmé, avec des traces partout. Alors, pas de gargouilles, hein, pas de chapiteaux sculptés, mais des coquilles de Compostelle, je parlais tout à l'heure des fossiles, il y en a partout dans la terre. Et on a vu une maison être entourée d'arbres, d'abord de terre labourée, puis les arbres sont arrivés, les arbres tout petits. Il a fallu les patienter, les laisser grandir. Et cette maison a été retapée petit à petit. Et quand je parle de chantier, je crois que c'est ce que je raconte dans la BD Les Grands Espaces. Il me semble que c'était vraiment une œuvre, une création en cours. Et ça faisait vraiment écho, ça fait toujours écho à ce que je fais aujourd'hui, en fait, à mon métier de dessinatrice, qui est de partir de rien. Voilà, on est d'abord en jachère et puis on va semer quelques graines, on va poser des tuteurs. Et puis du côté de la pierre, on va poser quelques pierres à fistoler, nettoyer un peu, pas trop. On laisse les traces du passé et on monte comme ça, on construit comme ça un petit édifice. Et en ce qui me concerne, ce sont des livres, des bandes dessinées.
Je me permets une nuance, ce n'est pas partir de rien, parce que tant dans la maison il y avait déjà quelque chose, et tant dans votre œuvre, la page est blanche peut-être, mais vous êtes porteuse déjà de toute une histoire. C'est peut-être ça aussi qui est très important, c'est qu'on sent que l'histoire transpire dans votre travail.
Bien sûr, vous avez raison, on ne part absolument jamais de rien. Je crois que dans Les Grands Espaces, j'ai aussi réglé quelque chose qui est que j'avais en moi, je pense, la nostalgie de mes parents. Et il fallait que je leur laisse cette nostalgie et que je la distingue de la mienne. Et par ailleurs, je ne voulais pas que cet album soit trop nostalgique non plus. Donc il y a aussi bourré d'humour, de gags, etc. Mais cette nostalgie, elle naît d'un certain chagrin. En tout cas, je le nomme comme ça, qui est que mes parents ont perdu leur maison d'enfance. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup de gens, hein, ce traumatisme de la maison d'enfance qu'on ne peut pas racheter, qui nous échappe. Et ces maisons d'enfance étaient déjà des grandes maisons, des vieilles pierres, des choses anciennes. Et petite, j'ai toujours senti que mes parents n'ont pas regretté totalement, enfin ce regret n'était pas au centre de leur vie bien sûr, mais il y avait quand même ce petit chagrin dans le coin de la tête et qu'il fallait trouver autre chose. Et dans la maison qu'ils ont retapée, donc cette ferme dans les Deux-Sèvres, ils ont importé un arbre, une bouture d'un arbre qui venait de la maison d'enfance, un morceau de pierre qui venait de l'autre maison, etc. C'était récolter comme ça des petits cailloux et reconstruire autre chose. Et donc je crois que j'ai essayé de transformer ce chagrin, je dis pas souffrance parce que c'est trop grandiloquent, mais pour en faire quelque chose de plus joyeux, parce qu'il n'y a pas que de la peine là-dedans, il y a aussi beaucoup d'émerveillement. Et j'en ai fait ma propre histoire.
Oui, et puis la nostalgie d'ailleurs dans Les Grands Espaces, je crois que c'est vous qui posez la question, c'est quoi nostalgie, et votre sœur répond c'est un truc de vieux ça.
Exactement. Oui, j'ai vraiment la peur d'être trop nostalgique. Je ne veux pas l'être, hein, ou je veux l'être de manière équilibrée. En tout cas, je crois plutôt que j'essaie de régler son compte à la peur de la... J'ai peur de la perte, en fait. Je crois que c'est commun, peut-être, à beaucoup d'auteurs ou d'autrices. Et le dessin et le livre me permettent de passer par-dessus cette trouille, en fait. J'aurais un saut de mouton, quoi.
Oui, parce que c'est un peu ça, hein, cette construction que nous faisons avec tout ce passé qu'on trimballe, peut-être un peu de nostalgie dans Mes Hommes de Lettres, Catherine Meurice. Alors vous vous en parlez, ils sont tous là, enfin, ils sont nombreux, pas tous, mais il y a Proust, il y a Flaubert. Et d'ailleurs, dans votre jeunesse, qu'on voit dans cette bande dessinée Les Grands Espaces, vous et votre sœur, vous êtes un peu Bouvard et Pécuchet, en écho à Flaubert. Non, mais c'est exceptionnel de voir que d'un détail, d'une petite chose trouvée dans la terre, vous construisez toute une histoire.
Bien sûr, il y a des trésors partout, dans la terre, dans la nature, dans les musées, comme on le disait tout à l'heure, dans les livres d'art, oui, on construit quelque chose, on rêve tout simplement. Le rêve est primordial dans l'enfance et quand on est dessinatrice, dessinateur, on essaie de garder ce rêve auprès de soi, de garder une petite part d'enfance pour rester dans un état d'émerveillement. Je crois que c'est un bon moteur pour faire des livres. En effet, oui, Bouvard et Pécuchet, j'adore Flaubert. J'aime passionnément Flaubert. J'adore sa correspondance. J'adore le sentir à travers sa correspondance. J'aime son amitié avec George Sand. Je trouve extrêmement touchant, très dur, parfois très critique, de mauvaise foi. Enfin, je l'adore. Oui. Donc, il est présent dans mes hommes de lettres. En effet, on peut le sentir passer dans les grands espaces, même si je parle surtout de Zola, de Proust et de Montaigne ou de Rabelais dans les grands espaces. Oui, les écrivains et les écrivaines, bien sûr, Sand ou d'autres, ou Colette, passent dans mes bouquins. Je peux pas m'en séparer.
Ils sont toujours présents.
Et dans les familles, ouais.
Ouais, dans les grands espaces. Alors, un des plus présents, c'est Pierre Loti.
Les chardons bleus, il y en a toujours sur les dunes sauvages de l'île comme au temps de Loti. Ces chardons bleus dont il déposait toujours un bouquet dans la maison de Rochefort, dans la mosquée au pied de la stèle d'Asiadée. Est-ce ici sur cette dune que Loti a pris le goût des fleurs sauvages, des fleurs de l'île, la julienne de Mahon, l'œillet marin? En tout cas, c'est ici qu'il jouait lorsqu'il quittait Saint-Pierre pour quelques jours, qu'il jouait avec la fille d'un pêcheur. Et c'est aussi ici qu'il a découvert pour la première fois la mer, cette immensité impressionnante. C'est devenu l'une des plus belles pages du roman d'un enfant. La mer est toujours autour de l'île où Loti dort sous le lierre et le laurier au fond de son jardin, dans le secret de son jardin. Cette mer, tranquille aujourd'hui, mais qui invite autant qu'hier à rêver.
Écrivain, historien, journaliste et charentais, c'est Jean Presto qui présentait en 1974 la figure de Pierre Loti. Catherine Meurice, pourquoi Pierre Loti est-il si important?
Pierre Loti, je l'ai connu grâce à ma sœur aînée, Fanny, qui a énormément lu, beaucoup plus que moi. Et d'ailleurs, dans les grands espaces, c'est le personnage qui fait véhiculer la littérature. C'est un petit personnage à la Mafalda qui a toujours un livre sous le bras. Et Pierre Loti, c'est... Je l'ai lu avant Proust, donc parce que dans ma famille, il y a une team Loti et une team Proust. Moi, je suis Proust. Mais avant d'avoir lu Proust, Loti, que j'avais découvert grâce à ma sœur, m'avait émerveillée, notamment le roman d'un enfant et Prime Jeunesse, où je pouvais m'identifier à lui. Il se raconte dans cette maison à Rochefort ou sur l'île d'Oléron. Il raconte la flore, il raconte les pierres aussi, il raconte le souvenir, la peur de la perte. Bon, voilà, de ce frère qui est parti en mer, qui est mort trop tôt, les voyages qu'il a pu faire, mais plus que les voyages de Loti, je crois que c'est vraiment son ancrage à Rochefort, dans cette maison, dont il a fait un musée plus tard, qu'on ne manque pas de visiter d'ailleurs à chaque fois qu'on revient dans la région. Mais oui, je pouvais me retrouver dans cet enfant qui se décrivait planqué dans le jardin, parmi les fleurs, là, on a entendu le mot de julienne. Dans les grands espaces, je représente le personnage de ma mère qui farfouille dans les jardins des Tuileries après une visite au Louvre en famille, et elle retrouve c'est un peu de fiction, ma mère n'est pas allée voler des plantes au jardin des Tuileries, mais en tout cas, elle a retrouvé plus tard cette fameuse julienne dont parle Loti. Et maintenant, il y a de la julienne dans le jardin de mes parents à la campagne. Il y a tout un système comme ça. On va chercher les plantes des écrivains et on en rapporte des petits morceaux.
Dans les grands espaces, d'ailleurs, au moment où vous dites à votre mère qu'elle a chouré des plantes, elle vous répond qu'elle les adopte, ce qui est complètement différent. Elle adopte des plantes que des grands écrivains, que ce soit Montaigne ou Rabelais, ont pu croiser. C'est-à-dire qu'elles ont traversé le temps, elles sont descendantes d'autres plans. C'est
oui,
beau.
C'est, je trouve ça émouvant, et j'ai chopé cette maladie moi aussi, même si j'essaie de me calmer, mais la maladie de la bouture. Mais en effet, j'ai toujours entendu mes parents dire, voilà, quand on se baladait, on va visiter l'abbaye de Maizet. On passe devant un figuier, donc ça date de... J'ai entendu ça dans l'enfance, hein, et ma mère me dit, mais ce figuier, forcément, Rabelais l'a vu. Il a sans doute goûté ces figues-là, donc on va rapporter les figues. figues de Rabelais. Je me souviens de Montaigne. Avant de lire Montaigne, je savais qu'il y avait un rosier blanc qui courait sur la tour de Montaigne parce que mon père avait fait un déplacement professionnel en Sud-Ouest. Il avait rapporté une bouture du rosier de Montaigne. Donc voilà, j'aborde les écrivains aussi par les plantes parfois, ou en tout cas par les livres ou les plantes, ou les images, ou les odeurs, ou les parfums, ou les...
Oui, c'est ce qu'on voit dans votre travail, Catherine Meurice, avec cette part d'imagination, mais qui n'est pas de la fiction. Et c'est très beau, d'ailleurs, de voir comment l'histoire est saisie pour enrichir le présent, voire la narration du passé. C'est-à-dire que, et on le voit bien dans les grands espaces, mais comme dans toutes vos œuvres, il y a vraiment cette volonté de magnifier le passé. Et d'un seul coup, on retrouve un Louis XIV sur un poney, et c'est du n'importe quoi qui se retrouve dans les Deux-Sèvres pour aller manger des fruits de mer.
Oui, on va... Enfin, ce serait difficile à expliquer l'histoire de la moule, etc. Mais la moule revient dans certains de mes albums. Oui, en effet, c'est vrai que j'ai pas du tout conscience de prendre l'histoire à bras le corps et d'aller chercher des bouts d'histoire et de les mettre dans mes bouquins. Non, j'ai l'impression de d'appliquer ces vers de Baudelaire que j'aime beaucoup, là, de ce fameux poème qui s'appelle Correspondance, ou que je connais depuis que je suis gamine, comme dans les échos qui de loin se confondent, les couleurs et le parfum se répondent. Je crois que je procède de cette manière, c'est-à-dire que je crée des correspondances et sans me soucier forcément de la vérité historique. Enfin, je fais un petit peu attention, mais je travaille pas comme une historienne. Je crois que je travaille comme une grande sentimentale qui vérifie toujours mes sources, mais l'intuition et les affects viennent d'abord. Ouais.
Eh bien voilà, nous recevons une correspondance de Baudelaire.
La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qui l'observent avec des regards familiers. Comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hautbois, verts comme les prairies, et d'autres corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens, qui chantent les transports de l'esprit et des sens.
Correspondance de Charles Baudelaire, lue par Georges Clès.
C'est mieux lu que moi.
C'est Georges Clès.
Oui.
Avec cette évocation magique par Baudelaire de l'importance de cette nature, alors que l'on retrouve, et c'est très difficile, on le sait bien, de mobiliser tous les sens. Alors là, vous, par la couleur, par le dessin, par le toucher même du papier, et vous recréez les odeurs. C'est absolument magique de voir comme ça cette virevoltance qu'il y a autour de ce que vous créez, de la manière dont vous saisissez l'histoire, Catherine Meurice, en disant que non, vous n'êtes pas historienne, mais vous vous appuyez sur l'histoire. Comment vous travaillez ? C'est-à-dire que avant de réfléchir, alors on pourrait en citer plein, mais que ce soit Manet avec Moderne Olympia, que ce soit Delacroix, que ce soit mes hommes de lettres, vos hommes de lettres, il y a un travail préparatoire extrêmement sérieux, bibliothèque, je prends les livres et je les lis.
Oui, il y a un travail très sérieux qui se fait un peu en amont et pendant toute la réalisation des livres. C'est-à-dire que je n'ai pas un storyboard tout fait, tout prêt, et ensuite je vais commencer à dessiner. Non, je me jette, je descends dans l'arène très très vite. Je commence à esquisser, j'ai un plan évidemment, je ne sais pas forcément où je vais, je ne connais pas forcément la fin de mon livre, et je décide d'avancer comme ça. Et donc, voilà, au fur et à mesure, je vérifie évidemment tout ce que je raconte, mais je chausse des lunettes particulières pour être en décalage en permanence. J'écoutais vos émissions récemment sur l'Uchronie, sur les essais. J'ai l'impression de faire de l'Uchronie de poche, c'est-à-dire que voilà, c'est des petites Uchronies comme ça. Je me dis, mais si Montaigne n'avait pas fait ci, mais ça, mais avait porté ceci, un jean plutôt qu'une fraise. Et si Simone de Beauvoir, là je pense à un livre plus récent, Humaine trop humaine, et si Simone de Beauvoir avait eu le destin de Jean-Paul Sartre, et etc. Et donc je réfléchis à ce qui pourrait être différent, original ou singulier, Et j'essaie de ne jamais trop m'éloigner, je ne fais pas du tout de science-fiction, j'essaie toujours de rester quand même, de ne pas dire de conneries en quelque sorte, mais l'humour va me permettre finalement d'approcher ces artistes ou ces grandes femmes, ces grands hommes que j'admire, et ça va dégonfler la baudruche de l'admiration, etc. Mais parce que j'ai envie de les faire rentrer dans ma vie, en fait, tous ces gens-là qui nous tiennent éveillés, qui nous rendent moins bêtes, qui nous font rire. On parlait de famille tout à l'heure, c'est une famille imaginaire qu'on peut tous se constituer, et on en a besoin. Et voilà, vous parliez aussi de tout ce qu'on pouvait trouver dans les pierres, dans la terre ou dans les livres. Ce sont des trésors. J'ai l'impression qu'avec les auteurs ou les artistes, il y a un trésor, et puis on nous file la carte du trésor, on nous indique sur le plan, et puis on nous dit aussi servez-vous, quoi. Vraiment, c'est open bar, quoi.
Et ça, c'est la régalade, hein, pour ceux qui reçoivent après le cocktail, une fois réalisé. Et puis, il y a de cela, on l'entend dans votre démarche de travail, Catherine Meurice, évidemment, parce qu'on travaille sérieusement, on ne peut pas inventer les choses autour de sujets que sont des grands artistes. Vous lisez les biographies, c'est au fur et à mesure de la lecture que vous voyez apparaître la scène décalée. Et là, vous dites, ah non, mais là, faudra transformer ça en ça.
Oui, exactement. Oui. Oui, souvent, au départ, il y a une vision ou une intuition, un sketch peut se profiler très vite. Et alors parfois je vais faire plier un peu l'histoire pour que que le sketch soit drôle, soit efficace, où je vais inventer un rythme particulier. C'est une sorte de danse, un petit peu de chorégraphie entre l'histoire, la littérature, les arts, etc. Et moi je mène tout ça de front. Mais en effet, il y a un gros travail de documentation, tant dans les textes, mais même dans l'image. Je ne peux pas séparer les deux. De toute façon, ça c'est aussi au départ de énormément de mes livres, Le Pont des Arts, Mes Zones de Lettres, c'est qu'il y a immédiatement l'association texte-image. C'est sans doute parce que je suis vraiment illustratrice fondamentalement. J'aime illustrer des textes, j'aime être portée par des textes et apporter peut-être un petit décalage, un petit truc. Mais quand je pense à, par exemple, Montesquieu, Diderot, j'ai immédiatement en tête les frontispices de leurs œuvres, les gravures qui peuvent y être associées. Quand je pense à Balzac, je sais, c'est Gustave Doré qui me vient en tête, ou Daumier, etc. Donc, mais même dans les auteurs plus récents, ou même Balzac, je peux l'associer à Picasso qui a illustré le chef-d'œuvre inconnu. Donc, à chaque fois, l'image est là, et c'est une image qui se transforme en écriture. Enfin, les deux se mélangent pour moi. Ça ne peut pas être dissocié.
Et dans la documentation même, il y a la documentation textuelle et la documentation d'images, des images anciennes. Vous allez vous plonger pour avoir des Proust différents pour le faire apparaître dans Le Pont des Arts ou chez vos hommes de lettres.
Oui, le Proust. Proust dans Mes Hommes de Lettres ou Le Pont des Arts, je dois avouer que je ne l'avais pas lu. Non, quand j'ai fait Mes Hommes de Lettres, je n'avais pas lu Proust. Mais faire Mes Hommes de Lettres m'a permis d'avoir moins peur de Proust. C'était le cas pour Céline aussi, que je n'avais pas encore lu. Je me suis approchée d'eux pour cesser d'avoir peur d'eux. Voilà. Et dans Le Pont des Arts, j'avais lu Proust. Ça avait été un choc. Donc je parle dans Le Pont des Arts de son rapport au peintre, notamment à travers ce personnage de peintre de fiction, Elstir, qui est un peu un mélange de Monet, Manet, Whistler, etc. Et comment d'ailleurs, là on parle souvent de l'écriture impressionniste de Proust, et comment la peinture dans La Recherche du Temps Perdu est vraiment la voie d'accès à la littérature. Ça, c'est assez fabuleux dans cette œuvre. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a marqué. Aussi, le procès de l'intelligence qu'il fait et l'intuition, ce boulevard qu'il donne à l'intuition. Tout ça m'a beaucoup servi en lisant en Proust. Et par ailleurs, Proust se retrouve, oui, en auxiliaire de vie dans l'album La Légèreté. Il n'est pas, comment dire, je ne m'appuie pas sur les textes à ce moment-là dans cet album, mais Proust est présent en tant que personnage, voilà, qui pourrait pousser mon petit fauteuil roulant à l'EHPAD quand je serai plus vieille. Et bien sûr, dans les grands espaces, il est là. Il y a le plus vieil arbre de la maison de mes parents, un érable. On l'a nommé Proust. On l'a nommé Swan. Parce que ce nom nous plaisait. Et puis, ça nous permettait de dire qu'on allait du côté de chez Swan quand on allait se balader du côté du gros platane, etc., etc. Donc voilà, Proust est présent. Et son visage change au fur et à mesure de mes bandes dessinées. Je m'autorise une progression comme ça dans le dessin. Il est parfois extrêmement simplifié dans le Pont des Arts. C'est juste un ovale avec des petits points à la place des yeux, une petite moustache, etc. Et puis dans Mes Hommes de Lettres, c'est encore autre chose. Il se rapproche plus. Il a ses yeux un peu de Cocker. Voilà, je m'autorise un dessin. Je fais partie d'une famille de dessinateurs qui, Dieu merci, m'autorise à faire des variations d'un livre à l'autre ou même d'une case à l'autre parfois.
Oui, oui, une liberté du moment que ce que vous voulez faire passer passe.
Exactement.
Et que le lecteur est heureux, ça tombe très bien. Avec l'importance de la nature, de la végétation, on le dit depuis le début de cette émission, des noms de plantes, de fleurs ont été cités. Nous avons un platane qui vient d'arriver. Très important, hein, cette nature. Parce que il y a quelque chose toujours d'intéressant avec cet aspect intemporel de la nature qui en réalité s'inscrit dans une vraie histoire, dans vos ouvrages et notamment dans Les Grands Espaces. Il y a l'histoire du paysage avec le remembrement. Et c'est ça qui est génial aussi, c'est de voir comment la nature même devient objet historique avec vous.
Oui, oui, en effet, c'est un paysage historicisé qui en a pris un peu plein la poire dans les Deux-Sèvres où j'ai grandi. Depuis que je suis enfant, j'entends parler du remembrement, ce mot qui pourrait être très joli, hein, remembrement, c'est juste le saccage des haies. Voilà, la monoculture, tout ça, ce sont des trop de maïs, voilà, ce sont des choses que j'entends depuis que je suis enfant. J'ai assisté à des réunions dans les villages où il fallait s'opposer à la ligne très haute tension qui allait passer au-dessus de tel lotissement, etc. Donc, et puis j'ai toujours vu mes parents en colère contre ça. Et voilà, donc j'en parle dans Les Grands Espaces, en effet, où ce paysage est un paysage abîmé. C'est toujours très difficile de consoler un paysage désolé, disait Pierre Dac, un paysage qui où les champs ressemblent à la mer, mais là cette rêverie elle est amère en fait, elle est, c'est le cas de le dire, elle est plutôt grinçante parce qu'elle signifie la mort des sols. Et petite parenthèse, là où j'ai grandi c'est tout près de Sainte-Soline. Je suis à fond contre les méga bassines, c'est un autre sujet. Mais là aussi, quand je vois ce qui se passe à Sainte-Soline, mon cœur bat très fort parce que ce sont vraiment les paysages de mon enfance et tout ça est relié à des problématiques extrêmement actuelles et absolument importante où il y a une absurdité au niveau politique. On va pas censer là-dedans, mais je trouve qu'il y a un décalage immense et au niveau gouvernemental quoi, qui nous dessert complètement et qui va nous faire crever plus vite que prévu quoi.
Non mais c'est important de le dire et d'ajouter de l'histoire en fait à cette actualité pour comprendre comment aujourd'hui, il y a ces méga bassines qui posent tant de problèmes et en tout cas qui entraînent des débats et de la violence. Cette histoire-là, c'est cette longue histoire à laquelle vous réfléchissez, la monoculture, le remembrement, etc. On ne peut pas comprendre les problèmes actuels sans regarder vers le passé. Et dans Mes Hommes de Lettres, évidemment, on croise Voltaire, donc ça nous donne envie d'aller cultiver de manière candide notre jardin.
L'amour des fleurs, ça réapprend le temps de vivre, hein.
Oui, ça redonne le sens, le rythme de la vie, le vrai rythme de la nature qui est calme, qui est lente, qui n'est pas pressée, voilà.
Le rythme des saisons.
Le rythme des saisons, le rythme des oiseaux, ce que nous n'avons pas dans les grandes villes.
Est-ce que vous n'avez pas au cinéma?
Hein? Ah, au cinéma, c'est un autre rythme, là je vais beaucoup plus vite, là. C'est un rythme de fou, là, sur les fous. C'est joué par les fous, dirigé par les fous, oui, oui, oui. C'est Gabin qui me dit ça, il me dit, regarde, c'est tout, des dingues. Alors j'ai commencé à, regarde, un tel, et c'était le metteur en scène. Il n'a pas une tête de dingue. Alors, je sais pas, c'est un dingue. Et l'autre, regarde la tête qu'il a, c'est un dingue. Et là, elle, c'est une dingue. Et puis, c'est vrai, quand on vous dit, sur un journal, on met par exemple, votre photo, la mienne. Supposons qu'on ne me connaît pas, on ne connaît pas. Voilà, ça c'est un meurtrier. Alors, ça se voit bien, une sale gueule. Ça, c'est un honnête homme. Ça se voit bien. C'est la légende.
En 1979, Louis de Funès, acteur, jardinier, réflexion aussi sur la force de l'image dans cette archive absolument incroyable. Catherine Meurice, mais oui, c'est ça, c'est de Funès qui cultive son jardin, un peu voltairien. avec tous ces dingues qui l'entourent hors de son jardin.
Ah oui, elle est géniale cette archive. Et oui, tous ces dingues, bon, on est tous dingues, qu'on soit à la ville ou à la campagne quand même. Mais oui, il parle de lenteur, la lenteur du jardin, en effet, il y a quelque chose de très apaisant et pour une dessinatrice ou un dessinateur, quelque chose de extrêmement inspirant, puisque la nature, c'est tout simplement avoir une force créatrice extraordinaire sous les yeux, quoi. Et puis un paradoxe, je trouve très 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 plaisant, qui est que la nature semble nous, avec son cycle, voilà, de renaissance, de printemps, etc., semble nous prolonger, et en même temps elle nous fait comprendre qu'on est de passage et qu'on est mortel, et ça c'est très bien, ça nous, c'est l'école de l'humilité.
Mais c'est très important de le rappeler, et c'est ce qu'on voit avec ces évocations dans les grands espaces de votre enfance, parce que vous nous avez dit que sur la maison il n'y avait pas de gargouille. Oui, mais il y a au moins une fleur de lys et une date, bah voilà, qui évoque que nous sommes qu'à un moment de cette longue histoire. Mais c'est très important aussi de le savoir, parce que ça veut dire qu'il y a une suite, on n'est qu'à un moment.
Oui, on n'est qu'à un moment, exactement. Ce que j'aime beaucoup, là, vous évoquez cette date, 1784, qui est inscrite sur le porche de l'Empire de la maison d'enfance. Le 4 est à l'envers. Et ça m'a toujours ému, ça m'a amusé quand j'étais enfant. Et puis, ce qu'on suppose, c'est que les ouvriers qui ont inscrit cette date, peut-être étaient illettrés. Enfin, et je trouve ça très touchant. C'est-à-dire qu'il y a cette date, 1784, on n'est pas loin de la Révolution française. Voilà, on est dans la grande histoire. Et l'histoire, voilà, c'est les hommes et les femmes qui ne savent pas forcément lire et qui taillent la pierre et qui la taillent très bien. Et voilà, c'est le peuple. Et je trouve ça bien qu'il y ait un petit bout d'une évocation du peuple comme ça dans la pierre de taille qui évoque quelque chose de plus grandiose.
Et pas seulement sur cette pierre de cette maison apparaît cette date 1784, sur votre épée également.
Ah oui, mon épée d'académicienne, oui. La date apparaît sur le pommeau avec un petit renard, le renard qui figure sur la tapisserie La Dame à la licorne, qu'on peut voir au musée de Cluny. Parce que le renard est un animal qui me suit, je l'ai là avec moi, qui me
Vous
suit
avez
depuis
un renard,
l'enfance.
Un renard dans le studio.
Il est en moi. Oui, j'aime cet animal rusé. Je l'aime dans les représentations au Moyen-Âge. Voilà, je l'aime dans le... J'aime le bestiaire du Moyen-Âge. Je crois que j'ai rencontré le renard à travers le roman de renard. Fabio connu. Et ça ne m'a jamais quitté. J'aime sa forme, son... Ça... Et puis c'est un animal sauvage. Le sauvage, ça disparaît petit à petit. Donc là encore, peur de perdre quelque chose. Et le sauvage, si on le perd, on est foutu. On est foutu.
On est foutu, mais non, on est encore là. Mais sauvage, mais malgré tout, très près des humains. C'est ça qui est intéressant.
Exactement,
avec le renard,
ouais,
aussi. Il n'est pas sauvage, complètement éloigné de nous. Il est d'autant plus magnifique, ce renard, quand il est raconté dans le roman de renard, par Philippe Noiret.
On appelait alors un renard un goupil. Au Moyen-Âge, les goupils étaient bien plus nombreux qu'aujourd'hui. On en rencontrait dans toutes les forêts de France et ils commettaient beaucoup de méfaits dans les fermes et les campagnes. Les poulaillers recevaient souvent leurs visites. On disait même que les goupils étaient des animaux très intelligents et très rusés. On inventa donc de nombreuses histoires autour d'un goupil qu'on appela renard. Et ces histoires devinrent si célèbres que le nom de renard fut adopté pour désigner le goupil.
Philippe Noiret, qui en 1972 présentait le roman de renard, c'était des vinyles pour les enfants, on a envie de l'écouter pendant quelques heures.
Là vous me faites très plaisir parce que je n'ai pas écouté ce vinyle, ce 33 tours depuis 30 ans je pense, et c'est Philippe Noiret qui m'a fait connaître le renard, pour tout vous dire. Oui, ce 33 tours avec cette voix extraordinaire et aussi le dessin, là encore on revient au dessin, mais le dessin qu'il y avait sur la pochette, voilà, l'association de ce dessin, la rousseur du renard et la voix de Noiret, et puis cette chose, cette information vraiment géniale, qui est que le renard au départ c'était un nom, Alors là, quand on est gamin, on a l'impression de d'apprendre quelque chose que personne sans doute ne savait. Donc c'est ça, c'est merveilleux. Et puis il y avait la petite musique aussi, on l'a pas entendu, mais la musique ancienne qui accompagnait ce voilà, qui était dans ce livre disque. Et ouais, c'est mon amour pour le renard date de ce 33 tours, figurez-vous. Donc là, vous me touchez beaucoup en passant cette archive. Ouais.
Avec toujours cette idée de transmission, on le sent bien, et c'est ce que vous faites, Catherine Meurice, c'est transmettre cette émission fou. Folle d'histoire, c'était aussi pour cela. C'est donner envie de l'histoire, donner le goût de l'histoire. Tout cela en s'amusant. Il y a vraiment cette démarche chez vous et on peut reciter, mais que ce soit Delacroix, Mes Hommes de Lettres, Le Pont des Arts, c'est transmettre des histoires qui vous ont marqué avec sans doute la volonté que ça touche d'autres gens qui n'iraient pas lire une biographie de Delacroix comme ça de manière brutale, mais qui vont peut-être lire cette bande dessinée.
Oui, alors étrangement, je n'ai pas l'idée de transmettre. Je n'ai pas l'idée, je me dis pas, tiens, je vais peut-être faire connaître des auteurs à d'autres gens. Je crois qu'il y a une démarche très égoïste au départ d'un livre, il faut l'avouer. Je cherche d'abord à combler un manque, comme disais, j'en parlais tout à l'heure de chagrin, voilà, combler un chagrin, combler. Vraiment, il y a quelque chose il y a un cœur à réconforter, quelque part. Et Minif, c'est ça, en fait. Voilà, le point de départ, c'est ça, il y a quelque chose à combler. Et donc la peur de perdre des connaissances, de perdre la mémoire, j'ai toujours cette trouille-là. J'ai vécu ça de près, petite parenthèse, en 2015, après l'attentat contre Charlie Hebdo, où j'ai vraiment, j'ai une amnésie partielle, mais qui a duré assez longtemps pour me faire très très peur, pour me faire croire que je ne pourrais plus jamais dessiner, faire mon métier, ça j'en parle dans La Légèreté. Et à partir de La Légèreté, j'ai eu de nouveau une folle envie de faire des livres pour me dire, je veux me souvenir toujours de Le Copain de Charlie, de Montaigne, de Balzac, de ce que j'ai appris, des morts et des vivants, des amis imaginaires ou des vrais amis, de la famille, de tout ce qui nous maintient en vie, de tout ce qui nous aide, en fait. Et le livre, pour moi, me sert à ça. Et la grande surprise, c'est quand je rencontre des lecteurs qui me disent « Mais c'est dingue, Les Grands Espaces, c'est mon histoire. » Je dis « Mais pas du tout, c'est la mienne !» ou Le Pont des... Enfin, voilà, c'est vraiment, je le dis sans fausse... Comment dire, pas fausse modestie, mais il y a toujours une surprise de voir les lecteurs qui se reconnaissent dans les bouquins. Parce que vraiment, pendant toute l'élaboration d'une bande dessinée, et c'est très long, la gestation, l'écriture, le dessin, la documentation, etc. On est vraiment dans son monde. On est gros d'un livre. On est un peu dingue ou fou, pour reprendre votre expression, fou d'histoire ou fou de dessin. On n'est pas du tout tourné vers les autres. En tout cas, je le vis comme ça, moi. Et puis quand le livre sort, voilà, ça, il vit sa vie et soudain il est en contact avec les autres et là les surprises commencent. Ça, c'est vraiment le miracle de l'édition, quoi. Merci. Merci Gutenberg, merci.
Oui, voilà, merci. Et puis merci vos éditeurs, oui. Sarbacane, Dargaud et tous les autres. Ouais. Parce que c'est très touchant ce que vous dites, Catherine Meurice. C'est vrai que la posture serait assez simple à adopter, de dire effectivement, j'aimerais beaucoup, à travers mes livres, faire connaître l'œuvre de Proust, de Flaubert et de tant d'autres. Non, c'est ce travail mais qui reflète en fait une personnalité. On le voit bien, tant par l'évocation de votre enfance, de vos amis, l'œuvre elle-même est construite de votre histoire, en fait, de votre souvenir, et puis de votre lecture du passé de l'histoire, qui vous mettait en avant, qui vous mettait de côté.
Oui, et ça encore, c'était pas prévu, et je m'en rends compte, oui, au fil des livres. On se rend compte toujours des livres qu'on a fait une fois qu'on les a faits, hein. C'est pas forcément au moment où on les fait. Oui, je me rends compte qu'il y a, je l'espère en tout cas, une cohérence, et que mes livres me suivent de très près. Et le dessin aussi, c'est-à-dire que je parlais tout à l'heure des visages de Proust qui changent d'un livre à l'autre. Mon dessin dit tout de moi. Je peux pas mentir, malheureusement. Bon, je vois dans mon dessin quand je suis fatiguée, quand je suis en forme, quand je suis nerveuse. Tout se voit dans le dessin. Et je vois ça dans le dessin des autres aussi. Peut-être que j'ai des yeux un petit peu préparés à ça, parce que c'est mon métier. Et j'aime cette vérité qu'il y a dans le dessin, en fait, plus que dans la peinture. J'aime les accidents qu'il y a dans le dessin, les erreurs, les repentirs, la sincérité, ou parfois un peu de mauvaise foi aussi. On le voit, hein, quand on essaie de faire son fier dans le dessin. Mais il y a une vérité dans le dessin que je trouve touchante, et je suis finalement heureuse d'en faire mon métier, parce que j'avais pas rêvé de ça. Là encore, je dois être trop, j'étais trop timide sans doute pour rêver de ça quand j'étais jeune, mais les rencontres ont fait que voilà, c'est devenu mon métier. J'y suis bien et je veux surtout pas changer là.
Ah bah tant mieux pour nous. Hein. Non, on entend cette liberté, Catherine Meurice, elle est toujours un peu prisonnière de vous-même, mais ça c'est le jeu. Ben tiens, la prisonnière, Marcel Proust.
De même que certains êtres sont les derniers témoins d'une forme de vie que la nature a abandonnée, je me demandais si la musique n'était pas l'exemple unique de ce qu'aurait pu être s'il n'y avait pas eu l'invention du langage, la formation des mots, l'analyse des idées, la communication des âmes. Elle est comme une possibilité qui n'a pas eu de suite. L'humanité s'est engagée en d'autres voies, celle du langage parlé et écrit.
Romane Boringer qui lit un extrait de La prisonnière de Marcel Proust. Avec Proust, Catherine Meurice, nous sommes vraiment sur l'exemple de l'auteur que tout le monde connaît. Moins de gens l'ont lu que ce qu'en parle, bon, et qui nécessite là aussi, eh ben, un jeu entre le personnage, l'œuvre elle-même. Faut peut-être un peu démystifier Proust, et ce qui ne lui enlève pas du tout de son génie et de la magie de lire de son œuvre. C'est pour ça, je pense qu'il est aussi présent chez vous.
Oui, c'est vrai, Proust est impressionnant, comme tous ces monuments, mais quand vous vous toquez sur la pierre, vous voyez que c'est pas forcément des murs porteurs, on peut faire des petites fissures, on peut enlever quelques cloisons et passer, se faufiler à l'intérieur. Oui, j'ai eu très peur de Proust avant de le lire, comme je le disais tout à l'heure, et faire Mes Hommes de Lettres, ou même Le Pont des Arts, m'a permis de prendre le taureau par les cornes, et puis surtout, j'ai lu, La Recherche en entier, alors j'ai presque tout oublié aujourd'hui, je n'ai pas relu Proust. Ça aurait fait chic de dire ça mais je n'ai pas encore relu Proust. En revanche, à chaque fois que j'entends des bribes du texte, comme on vient d'entendre lu par la formidable Romane Boringer, ou quand je tombe sur des citations, c'est toujours le même émerveillement. Je suis toujours sciée devant cette finesse d'analyse, son intelligence et aussi son humour. On parle rarement de l'humour de Proust, mais c'est un persifleur génial. Et il y a des passages extraordinaires de drôlerie. Enfin, c'était un observateur génial. Il paraît que dans la vie, il imitait aussi. Et qu'il riait tout le temps en mettant sa main devant la bouche. Et ça, c'est un cadeau. C'est vraiment la... Quand on lit La Recherche, je trouve qu'on est récompensé. Quand on va jusqu'au bout, dans le dernier tome, Le Temps Retrouvé, c'est... j'ai souvent les larmes aux yeux quand je lis les dernières phrases. Alors, la dernière phrase, il faut la relire, elle est complexe. Hein. Mais où est le verbe, où est le... Et voilà, les hommes sur des échasses, etc. Enfin, je trouve ça toujours bouleversant. Ça n'en finit pas. Et j'aime entendre les spécialistes de Proust. J'adore ça. Les Jean-Yves Tadier, absolument génial. Grimaldi, etc. J'aime... c'est comme un disque que je passerai en boucle. J'adore parce que, comme je peux être... il m'arrive d'être étourdie. Il me rappelle que, ah oui, il y a ça dans Proust, en effet, c'est génial. Et c'est génial parce que peut-être que ça me fait écrire un peu mieux ou dessiner un peu mieux. Ça m'améliore peut-être, ouais.
Un petit peu, non mais c'est structurant. Voilà. C'est structurant d'avoir des références, de savoir qui est qui, où l'on est et à quel moment. Et dans Humaine, trop humaine, on sent bien... Parce que ce sont, alors là vraiment on est sur du deux pages avec une narration beaucoup plus rapide et mais qui traverse tout. Enfin, on est un peu dans l'Antiquité puis après on a du Sartre. C'est que l'histoire est un matériau qui n'en finit pas. Pour vous Catherine Meurice, il faut savoir de quoi se saisir. C'est ça qui est difficile parce que tout est là et dans Humaine trop humaine, l'angle est philosophique, mais comme dans tout, l'histoire est omniprésente.
Bien sûr, et presque plus que la philo, en quelque sorte. Oui, j'aime beaucoup cette citation d'Alexandre Dumas qui dit que l'histoire, pour lui, c'est un clou auquel il accroche ses romans. Alors moi, je pourrais dire c'est un clou auquel j'accroche mes bandes dessinées. Dans Humaine, trop humaine, oui, bien sûr, au départ, c'est la philo, parce que ce sont des planches que je fais pour Philosophie Magazine. C'était une commande, ça fait 5 ans que je travaille pour eux. Et à chaque sketch, c'est un sketch en 2 planches, donc c'est un exercice assez particulier. Il y a au centre un philosophe très connu, évidemment, pour que ce soit compris du lecteur. Là, pour le coup, je me soucie plus du lecteur dans ce genre de commande. J'aborde les philosophes les plus connus, alors Simone de Beauvoir, Sartre, Voltaire, Diderot, etc. Et plutôt que de plonger tout de suite dans le texte et d'être écrasé par le texte, Kant, j'ai essayé, je n'y arrive pas. J'essaie de trouver une histoire, une autre histoire. Alors ça peut être, il y a plusieurs portes d'entrée, ça peut être une citation célèbre. Je vais tourner autour, je vais dire, qu'est-ce que, voilà, on ne devient pas, on ne naît pas femme, j'oublie mes classiques.
on ne naît pas femme, on le devient.
Oh là là, mais si Simone m'entendait, j'aurais une fessée. Je tourne autour, j'essaie d'inverser le sens des mots, qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière, etc. Ou alors je passe par la porte de biographique, pour Kant notamment, parce que Kant, je trouvais très difficile d'essayer de parler de son œuvre en deux pages, donc je savais qu'il était hyper travailleur, etc. Donc j'essaie de trouver un gag là-dessus. Dans Humaine, trop humaine, le ressort, c'est vraiment l'humour, enfin, c'est-à-dire que ce sont des sketchs. Il faut que ce soit drôle, je l'espère. Donc je passe par des anachronismes, etc. Et le point de départ, c'est je sais que je ne sais rien. C'est vraiment la phrase de Socrate, c'est je sais que je ne sais rien et je vais me documenter quand même. Et à la fin, j'en saurai peut-être un tout petit peu plus, mais c'est pas sûr. Et ce je sais que je ne sais rien me permet de rester les pieds sur terre et de toujours chercher un décalage, toujours chercher la drôlerie dans les grands textes.
Oui, mettre un peu de sourire et puis mettre de l'histoire. Alors l'histoire au sens je raconte quelque chose et puis l'histoire. L'étude, la science du passé. En écho à ce que vous dites, Catherine Meurice, je vous propose une autre analyse où il y a de l'histoire philosophico-politique.
Je vous propose d'écouter un extrait de cet inventaire à l'après-verre. Ségolène Royal, socialiste, défend le chabichou du Poitou. C'est pas triste.
Le mot chabichou date du 8e siècle. Ce sont les Sarrasins qui, laissés par leur armée en fuite après leur défaite subie à Poitiers en 732, qui se mirent pour survivre à fabriquer des fromages qu'ils nommèrent chabis ou chabichou. Et ce chabichou deviendra un élément du patrimoine culturel, gastronomique, historique du Poitou et même un signe de ralliement. Il servira même à repousser l'ennemi pendant la guerre, comme en témoigne la chanson Le Chabichou qui date de 1914 et dont je ne résiste pas à vous livrer un couplet sans le chanter toutefois. Non, non, non. Il est de tous les grands festins. Chez les pauvres, comme chez les Rupins, chers collègues, puisque Chabis, nous sommes Poitevins, c'est lui qui, grâce à son odeur, a porté le Poitou à l'honneur. Nos braves Chabis, pendant la guerre, ont repoussé l'ennemi hors de la frontière.
Bon, bon appétit.
Merci beaucoup. Grandiose Ségolène Royal en 1990, avec beaucoup d'autodérision quand même dans la présentation du chabichou, élément majeur de votre enfance aussi, Catherine Meurice, hein, le chabichou.
Oui, le chabichou. J'avais le choix entre la mogette du marais poitevin, qui est un haricot blanc hyper bon, et le chabichou que je nomme cabicou dans les grands espaces pour ne pas avoir d'ennui, pour ne pas citer de marque. Et bien sûr, après, je ne me sens pas du tout... Poitevine, je ne le revendique pas, je m'en fiche complètement. J'ai grandi dans les Deux-Sèvres, j'ai un peu de sang belge, un peu de sang. Enfin bon. Mais oui, le chabichou et la route des fromages de chèvre. Oui, enfant, j'ai observé, on a tous observé l'arrivée de Ségolène Royal. C'est spécial d'entendre Ségolène Royal si tôt. Je sais qu'elle était au pôle, dans le pôle, je pensais qu'elle ne reviendrait pas.
Et si. Bah, dans les archives, elle est présente.
Mais. Oui, elle a été parachutée par Mitterrand en 88 dans les Deux-Sèvres et elle a fait de bonnes choses aussi. Hein. Elle a retapé notamment les petits ports du Marais Poitevin. Donc, il y a eu comme ça, voilà, pas mal de restaurations. Et elle a créé la route du chabichou et des fromages de chèvre. Et alors oui, je ne sais pas si vous voulez me faire parler de ça, mais c'est un petit traumatisme aussi, c'est Ségolène Royal, je le raconte dans les grands espaces, c'est qu'on m'avait commandé une affiche quand j'avais 15 ou 16 ans, on m'avait commandé un dessin pour l'affiche du festival du Chabichou, et j'avais fait une peinture que je reproduis dans la bande dessinée, qui s'inspirait de Courbet, j'avais transformé la baigneuse de Courbet par une femme avec une tête de chèvre, tout ça était très romantique, très beau. Et l'équipe de Ségolène Royal m'avait dit « Ah, c'est génial, c'est super, l'affiche est formidable, on la montre à Ségolène ». Et puis ils m'ont rappelé peu de temps après en disant « En fait, on ne l'a pas montré à Ségolène parce qu'on s'est dit, là, votre femme chèvre, là, en fait, ils ne trouvaient pas les mots, ils hésitaient. En fait, le visage qu'elle a, c'est une chèvre, d'accord, mais enfin, c'est un peu Ségolène Royal, non ? Enfin, elle va mal le prendre, donc en fait, non. Et donc, on n'a pas pris mon affiche, et ça a été un grand, grand traumatisme. J'étais en larmes, et je me suis vengée après. Voilà, je sais qu'à Charlie Hebdo, Cabu se marrait beaucoup quand je lui racontais cette histoire, parce qu'il adorait, évidemment, dessiner Ségolène Royal. Et voilà, je me suis vengée à Charlie quand j'ai fait du dessin de presse. J'ai fait beaucoup de dessins sur elle.
Beaucoup de Ségolène Royal, pas obligatoirement en chèvre, Catherine Meurice. Il y a ce va-et-vient, en fait, dans ce que vous nous offrez, ce que vous produisez entre les fleurons du patrimoine, ce sont ces hommes de lettres, ces grands personnages, et puis le petit, le proche, l'intime, alors que ce soit l'intime que vous évoquez, ces amitiés, et que ce soit quelque chose de très touchant en évoquant votre enfance. Il y a ce jeu entre le rural et puis la grande ville, parce qu'il y a le Pont des Arts, Écho à Paris. Ce va-et-vient, c'est ça en fait qui est l'enrichissement de chaque personne. Moi, je le sens ainsi en lisant les différentes bandes dessinées que vous proposez. Il y a tant d'univers que nous explorons.
Oui, c'est ça, je pioche un peu dans tous les univers et pour moi, il n'y a pas d'hiérarchie. Alors, ça ne veut pas dire que je ramène tout au ras du sol, pas du tout. J'ai autant d'admiration pour le monde rural, certains aspects, hein, pas tout évidemment, que pour les musées. Et en effet, si on prend l'exemple des grands espaces, on part de cette maison dans les Deux-Sèvres, cette vieille ferme retapée, et puis on passe par le Louvre, parce que j'ai fait une visite au Louvre pour la première fois. Gamine. Et je compare les murs épais du Louvre aux murs épais de la maison de campagne parce que pour moi c'est la même chose. En fait, ce sont des refuges. Voilà, je crois que j'ai longtemps cherché des refuges, peut-être que j'en cherche encore aujourd'hui, mais et le Louvre c'est ça, le musée c'est ça. C'est un refuge immense et on s'y balade, on s'y perd, on est surpris, on est ému, on se marre, on cherche les sosies de Jean-Pierre Raffarin sur les cimaises. Et tout se mélange mais pas c'est pas il y a pas une confusion. Mais comme vous dites, il y a des va-et-vient sentimentaux, une fois de plus. C'est vraiment, il y a le plan du musée du Louvre, pour moi, c'est la carte du temps, en fait. Voilà, et c'est valable voilà, au Louvre comme dans les chemins creux, sur les chemins creux des Deux-Sèvres. Quoi. C'est pareil pour moi. Ça m'apporte autant, je crois. Ça m'apporte autant. Oui.
On a commencé l'émission en évoquant les vieilles pierres. On la termine aussi avec ces vieilles pierres. On pourrait dire que vos hommes de lettres, ce sont aussi des vieilles pierres, mais au sens où ce sont des éléments sûrs de notre mémoire, de notre histoire, sur quoi bâtir quelque chose. Et on voit bien que tout ça est en lien, tout est un écho. Quand vous parlez de cette maison d'enfance qu'ont racheté vos parents, il y a encore d'autres maisons avant, cette maison qu'eux-mêmes, dont ils avaient la nostalgie. C'est tout ça, en fait, qui fait qu'on se construit, on ne sombre pas. On a ces pierres sur lesquelles on repose.
Exactement, on parle beaucoup de maisons. On a parlé d'ancrage. Alors, peut-être qu'on ne rêve pas tous d'une maison, mais c'est... On est un peu des Ulysses hein, qui cherchent quand même à qui ça fait du bien quand même de revenir voilà d'avoir une cabane ou une grosse baraque peu importe un endroit où on peut se poser 5 minutes et en effet réfléchir au passé ou à l'avenir et oui.
À l'avenir, ouais, parce que en évoquant les Deux-Sèvres, il y a le Futuroscope quand même. L'avenir,
oh là là, oui.
Ben oui, non, mais c'est très important. Oui. Mais l'avenir n'est jamais à négliger parce que tout ce que l'on évoque là, c'est pour l'avenir. Et quand dans les grands espaces, vous évoquez votre enfance, mais quand de le Pont des Arles, de la Croix, la moderne Olympia, vous évoquez un autre univers, vous parlez au présent, bien sûr.
Bien sûr, et vous citez le Futuroscope, en effet j'en parle avec humour, je le rate pas d'ailleurs dans les grands espaces, parce que c'est un avenir artificiel en fait, c'était vraiment une vision de voilà ce que ça va être votre avenir, et ça va être des trucs en béton qui vont très mal vieillir. Pour moi l'avenir c'est plus l'arbre par exemple, qui nous aide à vivre et qui nous fait respirer et qu'on doit reconsidérer aujourd'hui, c'est plus qu'urgent. Donc l'avenir il est dans ces paysages changeants et puis c'est ça, reconsidérer la nature qui nous entoure, avoir conscience qu'on en fait absolument partie, qu'on fait partie de ces pierres et de ces végétaux et de voilà.
Oui, avec ce point commun entre les végétaux et puis cette mémoire, ce sont les racines. Alors oui. Les racines, pas ancrées sur un lieu particulier, c'est pas cette notion-là, mais c'est de réfléchir à d'où on vient, quelle est notre histoire, comment je m'inscris dans une longue histoire.
Oui, c'est ça, et puis rêver aussi d'autres histoires. Moi, j'ai grandi vraiment les pieds dans le fumier, et j'ai toujours rêvé de châteaux. C'est idiot, mais c'est peut-être pour ça que ça m'a tant plu de visiter le Louvre, qui a un palais, mais et je garde mes bottes crottées quand j'y vais. Enfin, je les ai en tête, en tout cas. Je veux ne pas me dissocier de cela, mais oui, c'est le rêve est tout à fait permis et même indispensable, je crois.
Même indispensable dans les retours que vous avez, la transmission. Avec modestie, vous avez dit, ou avec réalité, que c'était pas le but au moment de la création. Vous avez ces retours-là de dire, mais c'est grâce à vous que je me suis intéressé à tel aspect. Oui.
Oui, à chaque fois je suis presque embarrassée ou intimidée parce que je me dis, je rougis. C'est extraordinaire ça. Oui, j'ai des lecteurs qui me disent, mais déjà j'utilise vos bouquins en cours, au collège, au lycée, etc. J'ai découvert, j'ai enfin eu le courage de lire Proust, je me suis retrouvée dans Zola. Enfin, c'est génial. Comme je dis, c'est toujours une surprise et ça me fait très plaisir et en même temps, peut-être qu'il ne faut pas trop que je le sache, parce que il faut garder un petit peu de légèreté pour faire les prochains livres. Il faut oublier, il ne faut pas faire table rase, hein, mais il faut ranger tout ça dans un coin de sa tête, dans archiver et avoir un champ un peu plus libre, un pré-fleuri libre et toutes les barrières ouvertes pour préparer le prochain bouquin.
Comme ça, je ne vous dis rien alors de ce que vous pouvez apporter. Je dis rien. Je cite même pas les titres des ouvrages. Je pas de grands espaces, pas d'hommes de lettres, pas d'humaines trop humaines. Simplement un vif remerciement, Catherine Meurice, d'être
beaucoup.
Passée dans le cours
Merci
de l'histoire. Nous poursuivons avec Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment.
Comment Rousseau est-il devenu un transfuge de classe ? L'expression « transfuge de classe » ou « transclasse » s'est imposée récemment pour désigner les individus ayant connu un changement de milieu social au cours de leur vie. La plupart des récits autobiographiques publiés aujourd'hui par des transclasses présentent deux caractéristiques. Ils décrivent généralement une mobilité sociale ascendante et une trajectoire qui va du bas vers le haut sans retour vers le bas. L'histoire de Jean-Jacques Rousseau s'écarte de ce modèle parce qu'il offre un exemple rare mais éclairant d'un itinéraire à double sens. Issu d'une famille d'horlogers genevois, son enfance a été marquée par des lectures précoces de romans en compagnie de son père et par le deuil continuel de sa mère morte des suites de son accouchement. Placé en apprentissage auprès d'un maître violent, Jean-Jacques quitta Genève pour se réfugier en France. Converti au catholicisme, il se plaça sous la protection de la baronne Françoise-Louise de Varins. La liaison qu'il noua avec cet aristocrate fut la première étape de son ascension sociale. À ses côtés, il put satisfaire son goût pour la lecture et écrire son premier recueil de poèmes. Rousseau a reconnu plus tard qu'il avait acquis à ce moment-là des goûts plus raffinés, le sens de la propreté et le soin de soi. La seconde étape de son itinéraire de transfuge débuta lorsque, dévoré par l'ambition, il décida de rejoindre la ville Lumière, ce qui lui permit de fréquenter un monde intellectuel en pleine ébullition. C'est en 1750 qu'il atteignit la célébrité grâce à son discours sur les sciences et les arts. Deux ans plus tard, son opéra intitulé « Le Devin », représenté devant la cour à Fontainebleau, enthousiasma le roi. Cette réussite fulgurante confronta Rousseau à l'un des problèmes principaux qu'évoquent nos actuels transfuges de classe, la honte des origines. Terriblement gaffeur, lent et balourd, Jean-Jacques n'avait pas acquis l'habitus, c'est-à-dire les dispositions intériorisées dès la petite enfance, nécessaires pour s'intégrer dans le beau monde. Moqué pour sa gaucherie et sa lenteur, il prit conscience qu'il serait toujours un étranger au royaume de France, ce qui le décida à fuir les salons pour rebrousser chemin. Étant donné qu'un auteur brillant devait faire de l'esprit pour séduire un public mondain, Rousseau refusa ce titre et revendiqua le statut d'artisan. « Cet état d'artisan est le mien, celui dans lequel je suis né, dans lequel j'aurais dû vivre et que je n'ai quitté que pour mon malheur. » Il s'installa alors à la campagne et décida qu'il gagnerait sa vie en copiant de la musique. Rousseau continua néanmoins à écrire et conserva des liens avec des aristocrates. Mais sa rupture avec une élite dont il avait passionnément voulu faire partie le condamna à une vie errante. Accablé par Voltaire et par ses anciens amis, l'auteur du Contrat social et de l'Émile fut condamné par les autorités et dut fuir la France. Pourtant, malgré tous ses malheurs, Rousseau fut sans doute le premier exemple d'un déclassement réussi. Sa rupture avec l'élite des salons contribua en effet à son immense notoriété en lui permettant de toucher un auditoire beaucoup plus vaste qu'il fut le premier à appeler l'opinion publique.
Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture consacré à Catherine Meurice, et je rappelle et j'annonce sa rétrospective de son travail. C'est jusqu'en septembre au musée Tommy Ungerer, le centre international de l'illustration à Strasbourg. Catherine Meurice, une place à soi. Merci à toute l'équipe du cours de l'histoire, Alessandro Manzanares à la réalisation, Élise Le à la technique et Jeanne Delacroix, Anne Toscan-Viudès, Jeanne Copet, Gillian Tilly et Maïwenn Guizhou. Émission écoutée à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
La cour. Le procès du meurtrier Patrick Henry s'ouvre le 18 janvier 1977. Ses avocats, maîtres Boquillon et Badinter, vont tout faire pour lui éviter la guillotine. Retrouvez la reconstitution exceptionnelle d'un procès qui a marqué l'histoire du droit et de la justice française.
Mais ce n'est pas le procès de la peine de mort, c'est le procès de Patrick Henry.
Avocat emblématique, Robert Badinter sait qu'il tient là une occasion décisive pour rendre caduque la peine de mort. Le procès Patrick Henry, une série de 5 podcasts de Basile Ader.
Patrick Henry, levez-vous.
Réalisé par Cédric Ossir sur franceculture.fr et l'appli Radio France.